Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Violette. Violette, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Violette, on est très heureux de vous recevoir sur Bodgen Oustral et c'est pour parler de beaux projets aujourd'hui au sein du Fab Lab, alors anciennement Fab Lab, aujourd'hui Silex. Vous êtes chargé de conception CAO-DAO. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous parler un peu de votre parcours, Violette, s'il vous plaît?
Eh bien, avec grand plaisir, merci beaucoup de m'inviter. Alors, mon parcours, tout d'abord, j'ai fait du cinéma d'animation 3D. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle les arts et métiers pour me spécialiser dans les technologies interactives, ce qui m'a amené à, du coup, apprendre à concevoir beaucoup de modèles en 3D de différents types, que ce soit pour le jeu vidéo, le cinéma d'animation, et aujourd'hui, du coup, plutôt orienté impression 3D. Et du coup, prototypage.
Au sein du Silex, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça se passe, comment est-ce que vous accompagnez les gens? Quand ils arrivent, les gens, qui est-ce qu'ils vont voir et puis à quel moment est-ce que vous intervenez?
Eh bien, tout d'abord, ils vont contacter le Fab Lab et ensuite ils vont potentiellement parler du projet qu'ils auront. Nous, on est là pour accompagner les gens, principalement, du coup, les rendre autonomes. Alors, on va leur proposer des ateliers, des formations ou les encadrer pour des projets pédagogiques, surtout pour les étudiants, ce genre de choses. Donc, ça dépend. Vraiment, là, par exemple, on a un artiste qui voulait nous faire faire un caps de bombe, mais il voulait de façon proportionnellement beaucoup plus grand qu'un vrai caps de bombe, et du coup, on lui a fait une version très grosse. De ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de projet? On a des élèves qui avaient besoin d'une maquette du Panthéon, et du coup, nous, on a trouvé un modèle qui existait déjà. On leur a proposé, du coup, de se servir de ce modèle pour que ça leur coûte en quelque sorte moins cher, parce que ce que les gens payent, c'est plutôt la location de la machine et l'utilisation du matériel, et c'est tout.
D'accord, plutôt que le prix d'un vrai service complet qui mobilise bien justement plusieurs compétences. Vous, concrètement, quel est votre rôle? C'est à quel moment vous êtes comment dire, à la modélisation? Parce que au final, voilà, on voit ces outils, ces machines 3D, tout le monde en parle, beaucoup de gens s'y essayent, mais il faut un lien très étroit avec le logiciel pour créer.
Absolument. Il y a différents logiciels que j'utilise en fonction du besoin. Moi, je modélise principalement et aussi je donne des conseils aux gens sur quel logiciel utiliser en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc, par exemple, si on va faire une pièce plutôt industrielle, on va se diriger vers ce qui s'appelle de la CAO et on va utiliser ou Fusion ou SolidWorks, des logiciels très précis. Et si on veut faire autre chose, par exemple un personnage ou un arbre, quelque chose de plus organique, on va plus se diriger vers des logiciels comme Blender ou 3ds Max ou Maya.
D'accord, donc ces logiciels, ils sont voués plus ou moins donc aux techniques, à l'art. Vous nous avez dit qu'il y avait des artistes qui venaient. Il y a un profil récurrent qui vient chez vous, il y a tout le monde. Comment ça se passe?
On a principalement des étudiants vu qu'on est lié à la fac. Donc c'est grâce à leurs professeurs qui souvent leur demandent de venir pour essayer des machines et proposer des idées. Et mais on a vraiment de tout. J'ai eu un monsieur âgé qui est venu il y a quelques semaines pour faire une petite partie d'une lampe qu'il avait cassée. Et du coup, on a pu créer le projet ensemble et il est reparti avec une lampe fonctionnelle.
C'est bien, ça veut dire que voilà, toutes les générations s'intéressent, tous les profils. Veut dire, oui, on va préciser à nos auditeurs, donc c'est ouvert aux étudiants et aussi à tout public au final, sur rendez-vous.
Absolument.
Je voulais vous demander comment est-ce qu'on peut vous rencontrer? Alors, je sais qu'on peut vous contacter et venir sur place. Est-ce qu'il y a des ateliers, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous proposez pour aller à la rencontre des gens?
Eh bien, j'ai déjà fait mes premiers ateliers il y a quelques semaines et je propose une initiation à la 3D pour expliquer aux gens un petit peu le vocabulaire que c'est la 3D parce que je trouve ça important de rendre les gens autonomes, parce que souvent ils ne savent pas trop comment chercher l'information. Aujourd'hui, on a beaucoup d'accès d'informations sur Internet, mais on n'a pas forcément les bons mots techniques. Donc j'apprends d'abord le vocabulaire et ensuite j'apprends à définir le besoin, à utiliser les bons logiciels. Et on va refaire d'ailleurs des ateliers dans quelques semaines qui vont être début juin. Et voilà, c'est initiation à la 3D.
Il y a peut-être un autre aspect qui, alors moi j'en suis assez curieux. Je veux dire, on a une image en tête, on voudrait réaliser quelque chose. On a parlé donc de cette manipulation, de tout ce qu'on doit expliquer au logiciel, avec, vous nous avez dit, un logiciel parti avec un vocabulaire particulier, mais il y a aussi une connaissance des matériaux. Je veux dire, ça fonctionne, je crois, avec des filaments, chacun a des propriétés bien particulières.
Ah oui, excusez-moi, je ne vous ai pas du tout parlé des machines. Effectivement, nous aujourd'hui, on se sert principalement du coup d'imprimantes 3D à filament. Est-ce que vous voulez que je vous explique le fonctionnement
Ah oui,
de ces machines?
moi j'aimerais bien. Alors je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail. De toute façon, dans le détail, peut-être que je ne comprendrai pas, mais pour moi comme pour les auditeurs, oui, j'en suis assez curieux du moins.
Alors, il faut imaginer une machine en fait qui, je sais pas, en fait déjà, c'est vrai que de projeter à quoi ça ressemble. Donc c'est un plateau qui sur lequel vont être étalés du plastique en quelque sorte, qui va chauffer. Et ce plastique va être étalé par une tête, une buse, qui va se déplacer. Voilà, qui va se déplacer en fait et étaler des couches de plastique au fur et à mesure. Et ce qu'on utilise principalement comme plastique, c'est ce qui s'appelle du PLA. Et c'est du plastique recyclable qui est fait avec de l'amidon de maïs.
D'accord. Donc ça se déplace un peu, c'est comment dire, un arceau, un peu on dira comme une grue de porc qu'on voit dans ces ports, mais miniaturisée. Et il y a une petite tête qui se promène et qui vient déposer donc ce filament. Alors il chauffe à différentes températures, c'est en fonction du matériau, ça aussi.
Exactement, en fonction des matériaux, et donc le filament en question, là, le PLA qui est le plus utilisé, c'est autour de 210 degrés.
D'accord. Et donc on va vouloir venir construire plein de choses selon ce qu'on veut, la résistance, on peut vouloir des choses souples. Il y en a qui veulent peut-être des choses transparentes, c'est possible aussi.
Alors, on peut effectivement imprimer avec du filament transparent, mais en fonction du coup de l'épaisseur quand on va créer le modèle, ça va être plus ou moins opaque, je dirais. Mais ce ne sera jamais vraiment parfaitement transparent. En gros, aujourd'hui, il y a plein de filaments. Par exemple, on a eu des commandes pour faire des choses en doré. Et en fait, vu que c'est du plastique, ça donnera jamais, on va dire visuellement, le même effet que du verre ou vraiment de l'or. On restera sur du plastique.
D'accord, bien sûr, bien sûr. Au niveau de la taille des pièces qu'on peut produire, comment ça fonctionne? On est limité?
Effectivement, la machine est limitée du coup de par sa taille et de par la taille de son plateau. Et donc nous, on a une imprimante là en ce moment qui fait du 30 sur 30. Donc c'est on va dire le maximum de cette imprimante-là. Nous, on en a une autre qui a quatre plateaux qui sont collés les uns aux autres, qui font tous 40 cm. Et donc on est sur du 80-80. Donc on peut faire des très très grosses impressions 3D. C'est la plus grande imprimante 3D qui existe
D'accord. Et on
sur le
peut même
marché.
imaginer donc différentes pièces, des choses qui s'assemblent. Sa vocation simplement à produire ou justement il y a une dimension, je pense peut-être de prototypage pour ensuite aller faire un essai, peut-être après aller sur d'autres technologies, d'autres matériaux. C'est à ça que ça sert aussi?
Oui, bien sûr, on peut même fabriquer des moules. Moi, je fabrique des moules pour certains artistes qui travaillent sur Corté en ce moment. Comme ça, en fait, ça leur donne des références. Ils peuvent recoller des morceaux. Il y a un monsieur qui est venu me voir avec un besoin comme ça il y a quelques jours aussi. On n'a pas encore à travailler, enfin, on n'a pas encore commencé à travailler ensemble, mais il y a une forte demande.
L'aspect de votre métier à vous, très technique avec les logiciels, il s'applique dans le cadre du Silex uniquement aux machines 3D ou parce que je crois qu'au Silex on travaille aussi d'autres matériaux, on vient couper des matériaux, même des matériaux nobles, du bois, ça il y a un travail de logiciel aussi derrière.
Oui, bien sûr. En fait, toutes les machines, très fréquemment, on va passer par le logiciel Illustrator, parce qu'il va avoir besoin, en gros, de suivre des tracés. On a une découpeuse laser, donc effectivement, une découpeuse laser, on va devoir indiquer où est-ce qu'on va vouloir que ça coupe. Et donc, on met ça à place. Il faut imaginer un plan sur lequel on dessine les planches, par exemple, qu'on va vouloir découper.
En termes de projets à venir, il y a des accompagnements qui vont vous demander, je sais pas, plus de temps, des projets menés sur long terme avec les étudiants. Le Silex, est-ce qu'il voudrait donner, je sais pas, une direction particulière, s'orienter vers des nouvelles technologies? Ça, on en a une idée déjà.
Eh bien, Très honnêtement, moi je viens d'arriver, hein, ça fait à peu près 3 mois que je travaille ici. Du coup, déjà bien apprendre mon métier et apprendre à le gérer, c'est une forme d'innovation pour moi. Donc, parce qu'il y avait quelqu'un avant moi, mais quand je suis arrivée, elle n'était pas là, donc j'ai pas eu de
D'accord.
passation. Je vous avoue, l'innovation pour moi, c'est déjà de gérer ce que je fais.
D'accord. Donc vous êtes sur votre aspect très technique. J'imagine que qu'il y en a besoin. C'est vraiment un rôle central. Et après, donc on verra comment ça évolue. J'imagine que les idées arriveront peut-être aussi avec les gens, voilà, et avec des demandes.
Oui, c'est ça. Et des idées, il y en a plein. Vraiment, beaucoup de gens font énormément de demandes différentes. Il y a des projets qui me prennent effectivement plus de temps. Par exemple, là, on a la Restonica Trail qui nous a demandé de fabriquer des ours pour faire des trophées, par exemple. Et effectivement, ils nous ont demandé beaucoup de trophées. Et donc, ça va prendre. Ça va. Bon, je vais travailler sur ce projet-là pendant au moins un mois, par exemple.
Il y a aussi une, je veux dire, il y a le temps qu'il faut pour la conception des objets. Et puis ces machines, j'imagine qu'elles ont un rythme de travail. Quand on commence à demander un certain nombre de pièces, je veux dire, elles tournent à plein régime ensuite.
Ah oui, effectivement, bah là, rien que devant mes yeux, j'ai des pièces qui sont en train de se fabriquer sur chacune de mes machines. J'ai lancé plein plein d'impressions aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 30 ours à faire. Du coup, ça prend par ours à peu près 10 heures d'impression. Et donc, je les lance la nuit pour qu'on puisse faire un ours par jour.
D'accord. Donc c'est déjà une belle capacité de production. Tu as quelqu'un un jour qui a un projet professionnel, qu'est-ce que vous faites? Vous conceptualisez avec lui et ensuite j'imagine que plus tard, si on pour lancer une grande série, il va être amené à travailler bah, avec des usines, des choses comme ça.
Eh bien, après, c'est à eux de voir effectivement en fonction de la solidité de la pièce dont ils ont besoin. Parce que nous, on peut faire du PLA, ce genre de choses, mais si jamais on force sur une pièce comme ça très fort, elle va pas. C'est pas du métal, quoi. Franchement, c'est assez peu résistant. Mais on a aussi une autre machine qui, elle, fait des alliages de plastique et de fibres, et du coup, qui crée des pièces beaucoup plus solides. Mais du coup, l'utilisation de ces machines n'ont pas le même coût. Après, il y a aussi où les gens, ils ont un projet, ils veulent apprendre, et du coup, on les accompagne. Ou ils ont un besoin urgent, par exemple, ce genre de choses, et du coup, on peut leur faire une forme de devis sur la conception.
D'accord. J'ai vu les grilles de tarifs en ligne. Je veux dire, ce que je voulais dire à nos auditeurs, c'est que ça m'a l'air d'être des tarifs à chaque fois très raisonnables pour le public. Après, les étudiants, je pense qu'ils bénéficient encore d'abattements. Mais compte tenu des technologies et des compétences que ça mobilise et de ce parcours comme ça d'accompagnement, je trouve, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'il y a des tarifs qui ont l'air très très raisonnables, quoi. C'est ça aussi l'idée, que ce soit accessible au plus grand nombre.
Exactement. Je pense que l'objectif d'un Fab Lab universitaire, c'est avant tout le partage des connaissances et l'accompagnement. On n'est pas là pour à but lucratif, hein, vraiment.
En tout cas, Violette, écoutez, moi je pense, je vous ai posé les questions qui m'intéressaient. Je veux dire, j'ai beaucoup de curiosité. C'est un monde assez magique, enfin, de se dire que voilà, maintenant tout est accessible, très proche. On peut rêver de quelque chose et le créer de toutes pièces au final. J'espère aussi que nos auditeurs ont compris un peu, voilà, comment ça se passait. On réussit à avoir quelques images, se faire une petite idée. Où est-ce qu'on peut donc vous retrouver? Est-ce qu'il y a un contact, quelque chose à laisser pour les gens qui seraient éventuellement intéressés?
Oui, bien sûr. Vraiment, il suffit de taper sur Internet le Silex de l'Université de Corte et vous allez trouver tous nos contacts, donc le mail du Fab Lab, mais aussi le numéro de téléphone.
Alors Violette, je vous remercie, hein, merci beaucoup. Nous, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et quand il y a des dates d'ateliers, eh bien, on en parlera sur Bodgen Oustral pour que les gens puissent comme ça venir à votre rencontre. Je vous dis à bientôt.
Eh bien, merci à vous. Au revoir.
Merci Violette, au revoir. Écho, sage-t-on, un peu par là, dit au silex, et d'ici michtieri, à saï spécial, à saï prégis, y'a, concompédance, que udro, strasordinaire, y'a moussa, savourtoun, agustin, corsiga, di pou accompagna, si brugetti, brugetti di studenti, ma di no, brugetto, di tout oignon, ou, contattate donc aussi l'ex ou Fab Lab e accompagneranno, vi consiglieranno e piano un tempo davvero chi ciò le spiegaci l'affare ci ne siamo visto anche contattandoli e chiamandoli a per fare sentire a visto e sarete ricevuti benissimo.